ensemble, mes chers frères et sœurs, nous allons commencer. Alors, nous sommes heureux de recommencer notre étape avec notre pasteur, avec Williams, le chapitre 17 d'Apocalypse. Et nous allons encore voir des choses nouvelles. Ça continue. Et bien sûr, la parole de Dieu, elle n'est pas nouvelle, mais on annonce des choses anciennes, mais qui sont renouvelées par l'Esprit, et qui nous permettent d'avancer avec le Seigneur. Libre de nos chaînes, Dieu nous a libérés de toutes nos chaînes, nous marchons vers lui, sa main souveraine affermit nos pas, nous affermissons nos pas dans la foi et dans la connaissance de la parole de Dieu.
Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi.
Abrite-moi
sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, verras tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai à domine les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
Merci Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous garde dans ta paix, Seigneur, au creux de ta main. Nous sommes dans le creux de ta main, Seigneur, tu es souverain, tu tiens le monde dans tes mains, le début et la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, s'il y a un début, il y a aussi une fin pour ce monde, à cause du péché. Et c'est vrai que tu as créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Et Seigneur, c'est en toi que nous avons la vie éternelle, la vie avec toi pour toujours. Merci Seigneur, permets que le plus grand nombre soit sauvé. Non pas que le monde périsse, d'ailleurs c'est pas ton désir. Et malheureusement, beaucoup choisissent une voie qui n'est pas la tienne. Seigneur, nous voulons leur apporter les paroles de paix. Nous voulons être aussi et pénétrer de ta parole, être discerner les temps de la fin, pour ne pas être emporté par la vague du péché, de toutes les œuvres mauvaises, déguisées. Seigneur, donne-nous de voir clair. Donne-nous des hommes qui ne trempons pas dans dans des choses qui ne sont pas justes devant toi, mais que nous puissions vraiment, Seigneur, vivre dans ta sainteté, vivre dans ta sanctification. Tu dis que celui qui ne se sanctifie pas ne connaîtra pas la vie. Et nous voulons nous sanctifier, nous voulons vivre dans la crainte de Dieu, nous voulons obéir, non seulement avoir foi, mais obéir à ta parole. Et merci, Seigneur, de nous donner du discernement, de la clarté dans ta parole, que nous puissions voir les choses comme quand le cultivateur regarde le ciel pour voir le temps qu'il va faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, je vais inviter le pasteur Michael Williams. Il va nous apporter, je ne sais plus le nombre, il y a plus que 10 études qui sont déjà faites, hein, au moins un certain nombre. Au moins, ouais, c'est le côté de 12-13.
Merci. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous, de nouveau. Comme vous entendez, je suis très fort enrhumé. Je rentre hier soir de la Côte d'Azur, j'ai été voir la famille de mon épouse. Merci, sœur. D'autres reviennent de vacances avec des souvenirs. Moi, je reviens avec une toux. Mais si je dois tousser, vous remarquerez que cette fois-ci, ce n'est pas une toux flamande, c'est une toux niçoise. N'est-ce pas? Quelle joie d'être ensemble autour de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Toujours une joie et un privilège. Et nous allons reprendre là où nous l'avons laissé la dernière fois. Si vous vous rappelez, nous étions à Babylone, en train de voir la chute de cette ville qui représente tout ce qui est mauvais dans le monde. C'est frappant. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, ça a été aux journaux télévisés partout dans le monde, ce qui s'est passé à Nice avec ce camion qui a tué 86 personnes au nom de l'État islamique. Ce fait que pendant que j'étais à Nice, au moment donné, j'étais dans un bus et un jeune homme est assis juste à côté et on commence à parler. Et c'est un jeune Égyptien qui me disait qu'il était dans la foule quand ce camion a tué tous ces gens. Et ce camion s'est arrêté à 1 mètre de lui. Donc, si ce camion avait avancé encore un mètre, il aurait aussi probablement été tué. Et on parlait de ça. Il me disait qu'il est musulman. Moi, je lui dis que je suis pasteur chrétien. Et il me dit ceci, et ça, j'ai trouvé frappant. Il dit, oui, mais monsieur qui dit, ce qui s'est passé là à Nice et toutes ces autres atrocités, il dit, ça n'est pas l'islam, ça. Ça, c'est le diable. Quand même intéressant de voir que vous êtes d'accord, c'est le diable, bien sûr. Le diable se sert de l'islam, mais c'est le diable. Et il a dit, il ne suffit pas de combattre l'islam. Il voulait dire par cela l'islam fanatique. Il suffit pas de combattre l'islam, qu'il dit. Il faut combattre le diable. Alors là, je pensais pas que je serais d'accord avec un musulman, mais là, je pouvais dire amen. Et ici, ce que nous voyons, nous l'attribuons à l'Antichrist. L'Apocalypse parle de l'Antichrist, mais c'est le diable. Hein? L'Antichrist et le diable, c'est le même, ça fait partie de la même famille. Parce que c'est il y a maintenant quand même presque 3 mois que nous étions ensemble, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit au début concernant le chapitre 17, mais nous allons reprendre ce soir au verset 6, mais je vais lire les premiers versets pour nous rappeler un peu le sujet. Donc, chapitre 17, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et puis verset 6, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'essentiel de la foi, n'est-ce pas, c'est que nous aimions Dieu. C'est ça l'essentiel de la foi. Nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Et voilà pourquoi l'adoration de tous autres dieux, dont la parole de Dieu est assimilée ou comparée à la prostitution. Une prostitution spirituelle, parce que courir après d'autres dieux, et je mets ce mot Dieu entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'idoles de bois ou de pierre, mais de tout dans, par exemple, dans notre monde moderne, qui prend la place d'un dieu, du vrai dieu. Ça peut être n'importe quoi. N'est-ce pas? Je ne vais pas donner des exemples, mais ça peut être de tout. Mais tout ce qui prend la place dans notre vie, dans notre temps, dans nos pensées, etc., que Dieu devrait occuper, cette première place, dans la parole de Dieu, c'est de la prostitution. Et Babylone représente la culture qui est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette culture babylonienne ne se contente pas seulement de tourner son dos à Dieu. Nous vivons dans un monde qui déjà depuis longtemps et de plus en plus tourne le dos à Dieu, n'est-ce pas? Le monde ne veut pas Dieu, de moins en moins. Mais non seulement que Babylone tourne le dos à Dieu, en plus, elle persécute et elle dévore les enfants de Dieu, l'Église, les témoins de Jésus. Quel contraste entre le royaume de Dieu, où l'amour règne, et celui, le royaume de l'Antichrist, dominé pas par l'amour, mais par la haine. Babylone, dans l'histoire et aussi au temps de la fin, est toujours totalitaire. On ne tolère aucune dissidence. Vous vous rappelez de l'histoire, on va pas le lire, Daniel chapitre 3, où le roi Nebuchadnezzar érige un grand statut d'or, convoque des milliers de nobles, de personnes importantes, et les commande, quand la musique joue, de se prosterner devant l'idole. La musique joue et tout le monde se prosterne, sauf toi. Toi jeune. Qu'est-ce que ça peut faire à Nebuchadnezzar? Des dizaines de milliers qui se prosternent, 99,9%, et toi jeune, qui ne représente rien à ses yeux. Mais il se fâche tellement qu'il les jette dans la fournaise ardente. Il ne tolère même pas 0,1% de dissidence. Ça, c'est le diable. N'est-ce pas? Totalitaire. Dans l'Empire romain, les Juifs et les chrétiens qui refusaient d'adorer l'empereur furent mis à mort. Pendant la Grande Tribulation, ceux qui refusent la marque de la bête paieront leur refus de leur mort. Qu'est-ce qu'on reprochait? Qu'est-ce qu'on reprochera à ces chrétiens? Pourquoi est-ce que on somme le diable, s'acharne tellement contre nous? Je ne dis pas ça pour vous insulter, mais nous disent qui sont ici ce soir à Bois-de-Villers. Hein? Le diable a des milliards de personnes qui le suivent. Est-ce que nous représentons un si grand danger que ça? Vous dites oui. Et je crois que vous avez raison. Parce que le diable sait quelque chose concernant les chrétiens que le monde n'a pas encore compris. Nous sommes dangereux. Parce que là où deux ou trois se réunissent au nom de Jésus, lui-même est au milieu. Les prières des saints font des choses au ciel, etc. Ce qu'on nous reproche, ce n'est pas seulement le fait que nous refusons d'adorer des faux dieux. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est le fait que nous ne reconnaissons pas leur Dieu, le Dieu du monde, que nous osons dire qu'il y a un autre Dieu, et que seul cet autre Dieu est le vrai Dieu. Et par conséquent, tout leur Dieu à eux et leur grand chef Dieu à eux sont des faux. C'est pour ça qu'on nous reproche. Là, les ténèbres ont toujours peur de la lumière. Et le mensonge a toujours peur de la vérité. Pourquoi est-ce que les ténèbres ont peur de la lumière? Parce que la lumière chasse les ténèbres, n'est-ce pas? Il ne suffit même pas de beaucoup de lumière. Si cette pièce était tout à fait sombre, et je viens avec une allumette, je chasse les ténèbres, n'est-ce pas? Et le diable, il sait ça. Et qu'est-ce qu'est un chrétien? Pas une allumette. La lumière du monde, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il nous cherche. Nous disons que notre Dieu est le créateur de l'univers. Job, probablement un des plus anciens livres de la Bible. Donc Job, l'un des premiers qui a marché avec Dieu, au moment donné, il dit ceci. Il parle des gens dans le monde. Ils disent pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Le monde pousse et repousse Dieu, ne veut pas de Dieu, essaye de l'exclure partout. Ça n'est jamais réussi. Depuis l'histoire du monde, ça n'est jamais réussi. Pendant la grande tribulation, il y aurait des moments où il semblerait que ça réussit. Mais il y aura toujours, il y a toujours été un reste, et il y aura toujours un reste. Nous avons lu au verset 3, l'ange me transporta en esprit dans un désert, je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème et en 7 têtes et 10 cornes. L'écarlate, le pourpre, ce sont des couleurs royales et reflètent la richesse et le luxe. Cette femme est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. J'en dis, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Nous sommes déjà au chapitre 17. Excusez-moi. Il me semble que nous avons déjà vu pas mal de choses étonnantes. Mais maintenant, j'en dis, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, ça doit être quelque chose d'impressionnant, n'est-ce pas? Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Cet étonnement de Jean n'est pas tout à fait étonnant, surprenant. Je vais ce soir lire plusieurs passages de l'Ancien Testament. Et je commencerai avec Daniel, qui lui aussi, quand il a reçu les visions de la fin, témoigne d'un grand étonnement. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendis le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il change de couleur de visage, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement qu'il devient tout pâle, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on devient tout pâle? Quand on est vraiment choqué, quand on ne sait pas comment réagir, c'est quelque chose de tellement grand et tellement terrifiant. Et l'Antichrist et son royaume qui règnent sur toute la terre et qui paraissent si puissants sont quand même voués à la destruction. Quand Adolf Hitler a proclamé, promulgué son Troisième Reich, il a dit qu'il allait durer 1000 ans. Les gens qui habitaient à l'époque, beaucoup, ont fini par le croire. Parce qu'au début, pendant les premières années, il semblait avoir succès après succès après succès. Il y a des gens qui disent, et je pense qu'il y a probablement une certaine vérité dans cela, qu'une des raisons principales pourquoi cette Reich de 1000 ans n'a duré que 12 ans, c'est parce que il s'est attaqué aux Juifs. Hein? Il a touché Dieu lui-même. Mais l'Antichrist, quand il commencera son règne sera tellement universel, tellement puissant, il semblerait que tout ce qu'il fait réussit, que, comme nous l'avons déjà vu, la grande majorité de la population de la terre vont courir après lui. Mais lui ne tiendra même pas 12 ans. Il ne tiendra que 7 ans. Et j'entends ceci. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Juste entre parenthèses, il y a des chrétiens qui voient dans cette petite phrase ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Ils voient là-dedans la doctrine de la prédestination. La doctrine de la prédestination est courante dans certaines branches de la chrétienté, surtout dans certaines branches réformées, pas toutes. Mais la prédestination a aussi plusieurs niveaux. À son plus haut niveau, la prédestination dit que tout est prédestiné. Donc, qui se repent et est sauvé, ça ne dépend pas de la personne, ça dépend de Dieu. Et si vous n'êtes pas sur la liste, vous pouvez être aussi pieux que vous voulez et prier autant que vous voulez, vous repentir autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous ne vivrez pas éternellement. De l'autre côté, si Dieu vous a prédestiné à vivre éternellement, vous pouvez être le plus grand pécheur, passer toute votre vie dans le péché, mais quand vous mourrez, vous allez au ciel. Pas toutes les doctrines de la prédestination sont si extrêmes. Mais il y a des gens qui voient une confirmation de la doctrine de la prédestination dans cette phrase. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. C'est pas du tout ça que ce verset dit. Ce verset dit tout simplement que ceux qui suivent la bête sont ceux dont le nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie. Et pourquoi est-ce que leur nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie? Pas parce qu'ils étaient prédestinés, mais parce qu'eux-mêmes, ils ont choisi de ne pas accepter Jésus. N'est-ce pas? Ce n'est pas du tout la doctrine de la prédestination. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. S'étonneront. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus. Et qu'elle reparaîtra. Compliqué, hein? Et puis, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Compliqué, non? Très compliqué. Essayons de la décortiquer, ces quelques versets. Pour cela, il faut rentrer dans l'Ancien Testament. Nous l'avons déjà fait ça plusieurs fois. C'est compliqué pour nous, parce que nous le lisons, et nous ne faisons pas tout de suite le lien avec l'Ancien Testament. Mais il s'agit ici d'idées ou de principes que les Juifs qui lisent l'Apocalypse à la fin du premier siècle, eux, ils sont au courant. Ils comprennent ce que ça veut dire. Je vais essayer d'expliquer. Quand Daniel reçoit ses visions des temps de la fin, Dieu lui défend de les révéler. Dieu lui dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. L'Apocalypse complimente Daniel. Et Daniel complimente l'Apocalypse. Quand on lit l'Apocalypse à côté du livre de Daniel, l'un nous aide à comprendre l'autre. Il fallait attendre l'Apocalypse pour que les choses secrètes dans le livre de Daniel puissent devenir compréhensibles. Et ces choses dans le livre de Daniel, et tout à l'heure nous verrons dans le livre d'Ézéchiel, ces choses deviennent compréhensibles quand nous les lisons dans le cadre de l'Apocalypse et vice-versa. Quand j'enseignais l'Apocalypse à l'école biblique, au début, le cours s'appelait Daniel et l'Apocalypse, et on commençait avec Daniel. Plus tard, ils ont laissé tomber Daniel, ce que j'ai personnellement trouvé dommage. Parce que les deux, avec une partie au moins du livre d'Ézéchiel, d'Ézéchiel 16. Si vous voulez, Daniel et Ézéchiel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et l'Apocalypse, nous l'avons vu au début, le mot veut dire la révélation, des choses qui sont cachées, les mystères. Nous l'avons lu au début, chapitre 5, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Les choses qui étaient fermées, maintenant sont ouvertes, car tu as été immolé, etc. Nous avons aussi lu, c'est ici l'intelligence, ou quelque chose dans ce genre. Quand il s'agissait au chapitre 13 de la marque de la bête, c'est ici la sagesse, ou si vous voulez l'intelligence, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et maintenant nous lisons, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise, aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Alors avec l'intelligence et la sagesse que nous avons déjà acquise dans le livre de l'Apocalypse, essayons maintenant de comprendre ce que représentent ces sept têtes et cette bête. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Beaucoup de soi-disant experts ont cherché une ville qui est construite sur cette montagne. Pas difficile. Ça dépend bien sûr de ce qui est votre définition de montagne. Il paraît que, si vous voulez, vous pouvez même trouver cette montagne à Bruxelles. Je sais pas où ils sont, où elles sont ces montagnes, mais il paraît que c'est possible. Des autres candidats, bien sûr Rome, Jérusalem. Mais il y en a d'autres, hein. Amman en Jordanie, Athènes en Grèce, Madrid, Barcelone en Espagne, Budapest en Hongrie, Istanbul en Turquie, la Mecque en Arabie Saoudite. Il paraît, je n'ai pas fait le compte, il paraît qu'il y a au moins 68 grandes villes du monde construites sur cette montagne. Alors, à vous de choisir. Hein. Si vous voulez que le siège de l'Antichrist est à Bruxelles, cette montagne, vous l'avez. Il s'agit de Babylone. Il s'agit de Babylone. La prophétie continue. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ce sont des rois, si vous voulez, mais des rois, comment on dit ça en français, des rois vassaux. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont rois de nom, mais ils n'ont pas aucun pouvoir. On a vu ça dans l'histoire. Nous en connaissons un très connu, il s'appelait Hérode, le roi Hérode. Mais il ne pouvait pas lever le petit doigt sans la permission des Romains. Il ne régnait pas, n'est-ce pas? C'était le Romain qui était le maître. Et les rois que nous trouvons dans la grande tribulation, et donc dans le livre de l'Apocalypse, sont pas des rois qui ont des pouvoirs, ce sont des rois vassaux de l'Antichrist lui-même. Et ils n'ont rien à dire. C'est l'Antichrist qui tient toutes les ficelles. Et qui se sert d'eux pour avancer ses desseins malins. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Qui sont ces 10 rois alors? Oh, là aussi les experts ont des idées. Quand l'Union européenne était 10 pays, c'est l'Europe. Qui encore? Est fondée sur le traité de Rome, c'est clair. Et puis on a ajouté des pays. Et aujourd'hui, on est à 28, d'ici peu 27. Hein. Difficile à dire que les 10 rois sont l'Europe. Il est vrai que, et c'est quand même frappant, le Parlement européen à Strasbourg, je ne sais pas si j'aurais dû avoir un dia, le Parlement, le bâtiment du Parlement européen à Strasbourg, si vous le voyez à la télévision, remarquez bien, c'est modelé sur le tour de Babel. Le tour de Babel, personne ne sait comment le tour de Babel était. Dans le temps du livre de Genèse, on faisait pas des photos. Mais un artiste flamand, Peter Bruegel, a fait une peinture très connue de la tour de Babel. Et cela a servi de modèle pour le Parlement à Strasbourg. Et dans le Parlement, dans le bâtiment de l'Europe à Bruxelles, il y a une immense sculpture d'une femme sur une bête. Dans les pièces de 2 euros, les pièces grecques de 2 euros, vous savez, les pièces de l'euro, une face, c'est la même dans tous les pays, de l'autre face, chaque pays choisit. Remarquez quand vous avez une pièce de 2 euros, ou est-ce que c'est 1 euro, enfin, une pièce grecque, la femme sur la bête. Intéressant que l'Europe a repris consciemment les symboles de Babylone. Je ne veux pas déduire de cela que l'Europe est déjà le royaume de l'Antichrist. C'est clair que ce n'est pas tout à fait le cas. Le royaume de l'Antichrist, comme nous l'avons déjà vu, va surtout s'étendre, va être l'Empire romain ressuscité. Bon, la Belgique, au moins en partie, a fait partie de l'Empire romain. Une partie du Royaume-Uni aussi, la France, l'Espagne, etc. aussi. Mais pas la Suède et le Danemark et d'autres pays. Donc c'est pas tout à fait ça. Mais il est clair que dans le monde, ce n'est pas difficile à comprendre, le monde se prépare à un gouvernement mondial. Les pays de l'Europe, n'est-ce pas? C'est clair que les pays individuels ont de moins en moins à dire. C'est pas le gouvernement belge qui décide, c'est l'Europe qui décide. C'est surtout pour ça que la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit. Est-ce qu'ils ont raison de le faire ou non, ça c'est une question politique. Mais le fait est que beaucoup de Britanniques sont fatigués de voir Bruxelles se mêler de choses qui ne sont pas importantes. Une des raisons, c'est peut-être banal, mais, et ça n'a pas été dans la presse ici, mais ça a été dans la presse britannique. Pas longtemps avant le référendum, au mois de juin, Europe, Bruxelles, avait décidé que, en Angleterre, une saucisse ne pouvait plus s'appeler saucisse. Pourquoi? Parce que le contenu de la saucisse britannique ne correspond pas aux normes que les experts à Bruxelles ont décidé pour une saucisse. Donc, la définition de saucisse ne s'applique plus. Et ils ont donc donné une directive à l'Angleterre. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez encore produire vos, entre guillemets, saucisses, mais vous devez les appeler autrement. Et le gouvernement britannique, dans ce cas-là, a dit, oh non, ça va trop loin. Nous mangeons nos saucisses depuis des siècles. Le peuple aime ce goût-là, il aime cette composition-là, hein. Nous allons continuer à appeler ces saucisses. Et l'Europe, paraît-il, a fait marche arrière pour une fois. Mais c'est pour ça. Des choses pareilles. Mais ça, c'est la politique. Mais même si il y a un Brexit et qui sait si ça ne sera pas suivi par d'autres, d'autres vont se joindre à l'Europe, il y en a qui ont déjà fait la demande. Mais ce n'est pas seulement l'Europe. En Amérique du Sud, on a quelque chose de pareil. En Amérique centrale, on a quelque chose de pareil. En Asie, on a quelque chose de pareil. Le monde veut des unités de plus en plus grandes. Il y avait un temps en Belgique, il n'y a pas si longtemps que ça, chaque petit village était sa propre commune. Puis on a fusionné des communes. Maintenant, ils veulent fusionner les provinces, etc. Ça doit devenir de plus en plus grand. Les gouvernements locaux perdent leur pouvoir. Et il est clair que nous allons dans le sens d'un gouvernement mondial. Et la Bible nous montre que ce gouvernement mondial, son président ou son empereur ou son roi, nommez-le comme vous voulez, sera l'Antichrist, n'est-ce pas? Il y a des gens qui identifient l'Antichrist au pape de Rome. Non, c'est pas le pape de Rome. Malheureusement, l'Église de Rome, en partie au moins, mais pas seulement l'Église de Rome, aussi des autres églises, s'allient à ce mouvement, soutiennent ce mouvement. Et cela devient de plus en plus clair. J'ai un ami une connaissance, un frère qui a été étudiant à l'école biblique où j'ai enseigné. Il m'a fait l'honneur de demander de célébrer son mariage il y a des années maintenant. Mais il se fait qu'il est devenu pasteur de l'EPUB, de l'église protestante de l'État. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Il m'a dit, frère, c'est terrible ce qui vient se passer. C'est-à-dire que l'EPUB a voté le mariage des homosexuels. Lui, chrétien pentecôtiste, né de nouveau, il dit, pas question. Ni moi je ne le ferai, ni dans mon église. Mais les pouvoirs au-dessus de lui ont dit que s'il refuse, il peut être licencié. Il a une femme et des enfants. Hein? Il a sa pension. Mais c'est à ça que nous allons, n'est-ce pas? Et il semble que c'est un mouvement qui n'est pas arrêté. Ça va de plus en plus. Et c'est une des choses d'ailleurs qui nous montre que nous sommes déjà dans la fin des temps. Et ce qui est important pour nous chrétiens, c'est de comprendre ce qui est derrière et comment cela fonctionne. On a parlé des rois vassaux, des rois qui ont le titre de roi mais qui n'ont en somme rien à dire. Ils combattront contre l'agneau, l'agneau les vaincra. Ça, nous le savons. Nous le savions il y a longtemps. Mais ce qui est intéressant, ce dernier verset que nous avons lu, le verset 17. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Et d'exécuter un même dessein. Et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu leur a donné dans le cœur. À ces 10 rois, ces serviteurs de l'Antichrist, presque le diable en personne, ils ne sont pas menés uniquement par le diable, mais Dieu a son mot à dire. Nous pouvons penser qu'il s'agit ici de l'Europe, il y a des autres candidats, des Nations Unies, le Conseil mondial des églises, etc. Ça n'a pas d'importance. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur ses rois de la terre. Nous voyons aussi un contraste. Où Satan se manifeste, c'est le contraste de quand Dieu se manifeste. Dieu aime et protège les siens. Satan haït et détruit les siens. Ces 10 rois qui le servent, il se sert d'eux. Il y a quelque chose de frappant, une histoire que nous connaissons bien. Vous rappelez l'histoire du Gadaréen. Jésus débarque à Gadara avec ses disciples et un possédé tout nu s'avance sur lui. Et Jésus chasse une légion de démons. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la lire. Juste deux versets. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noyait. Les démons préfèrent se suicider plutôt que de rentrer à l'enfer. Quand même frappant. Quel contraste entre ceux qui servent le diable et qui sont finalement détruits par lui, n'est-ce pas? Ceux qui se droguent, ils se droguent en cherchant le bonheur. Mais qu'est-ce qu'ils reçoivent? La destruction. Ceux qui s'enivrent, ils boivent pour trouver le bonheur. Mais c'est le contraire. Le diable finit par détruire ceux qui le servent. Tandis que ceux qui servent le Seigneur sont bénis. Nous comprenons l'apôtre Paul, nous comprenons l'apôtre Paul quand il écrit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur. » On n'entend pas un démon dire quelque chose comme ça. Hein? « J'ai le désir de m'en aller et de passer l'éternité à l'enfer. » Non, il préfère même se suicider. Et le sort de la grande prostituée. Intéressant. Nous l'avons lu. Je ne sais pas si vous avez fait le lien. En Deux Rois, il y a une prédécesseur à la grande prostituée qui s'appelle Jézabel. Et Jéhu dit, jetez-la, Jézabel, en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit du sang sur le muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jisraël. » Jisraël, dans l'Ancien Testament, c'est le nom de la vallée d'Armageddon. Il y a un message prophétique, même dans cette histoire, qui, à première vue, n'a rien de prophétie. Jézabel fut une prédécesseur de la grande prostituée de Babylone. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a blasphémé Dieu. Elle a persécuté les enfants de Dieu. Elle a séduit le peuple dans l'idolâtrie. Je reviens maintenant à cette déclaration étonnante. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu sont accomplies. Sans qu'ils s'en rendent compte, l'Antichrist et ses rois n'accomplissent pas leur programme à eux, mais ils accomplissent le programme de Dieu. Frappant, n'est-ce pas? Ils pensent qu'ils accomplissent leur programme. C'est pas du tout leur programme. Et à première vue, frères et sœurs, si nous irions plus loin, et votre pasteur ne m'a pas invité pour enseigner la théologie, heureusement, parce que je ne suis pas théologien, mais juste quand même un tout petit peu de théologie. Dieu leur a mis dans le cœur d'exécuter son dessein. alors qu'ils ne connaissent pas Dieu, veulent absolument rien de Dieu, veulent rien savoir de lui et son plan. Néanmoins, sans le savoir, sans le vouloir, ils exécutent le plan de Dieu. Nous disons alléluia, ça c'est formidable. Oui, mais ça nous présente un problème théologique. Parce que si ça est vrai, où reste la volonté propre de l'homme? Vous me suivez? C'est pas leur volonté, non, ils veulent absolument pas accomplir le plan de Dieu. Mais ils le font quand même. Et c'est Dieu qui le met dans le cœur. Donc c'est Dieu, si vous voulez, qui les oblige de le faire. Alors, est-ce que la Bible enseigne la volonté propre de l'homme? Cela est important, n'est-ce pas, parce que ça remonte au jardin d'Éden. Est-ce que Ève mange du fruit parce qu'elle est préprogrammée pour le manger? Ou est-ce qu'elle mange du fruit parce qu'elle en a envie? La Bible dit, elle voit le fruit, elle se dit, oh, ça a l'air d'être appétissant, je vais le goûter. Vous êtes d'accord avec moi? Elle aurait pu dire non. Elle commence en disant non. Non, parce que Dieu a dit. Et le diable dit, oui, mais c'est pas ça que Dieu a dit. Et elle regarde. Et elle prend. Mais vous êtes d'accord avec moi? Elle aurait pu dire non. Parce que Dieu a créé Ève, et Adam bien sûr, avec une volonté propre. Ça veut dire que vous et moi, juste comme Adam et Ève, et aujourd'hui c'est peut-être pas un fruit que le diable nous offre, mais il nous offre des autres choses, il essaie de nous séduire par des autres choses. Et à nous, nous personnellement, à dire oui ou non. Ou est-ce que nous disons oui ou est-ce que nous disons non parce que nous réagissons selon que Dieu nous a préprogrammé. C'est important, hein? C'est important. Parce que la question de base est celle-ci. Et je répète, je suis pas théologien, donc je ne peux me limiter qu'à des explications un peu simples. Mais la question est celle-ci. Est-ce que l'homme est capable et a le droit de dire non à Dieu, de le désobéir, et de faire le contraire de ce que Dieu veut? La réponse est oui. Mais n'oublions pas que la réponse est seulement oui parce que Dieu a créé l'homme dans un cadre où ce non est possible. Donc il ne peut dire son oui ou son non que dans ce cadre. Il n'est pas préprogrammé, non, il a libre choix. Mais le cadre de son libre choix est limité. Dieu décide. Et la même chose avec l'Antichrist, nous l'avons déjà vu. Dieu, et ce n'est pas seulement l'Antichrist, dans toute l'histoire et aujourd'hui encore, Dieu permet à l'homme d'aller contre lui, de faire des choses terribles. Mais au moment donné, Dieu dit, arrête. Dieu, il permet à l'homme d'exercer son libre choix, mais pas au cas où le libre choix de l'homme changerait le cadre du plan de Dieu. J'arrive à m'expliquer, je suis pas théologien, excusez-moi. Mais c'est ça l'essentiel. Il faudrait bien sûr une autre étude par quelqu'un d'autre pour approfondir cette question. Mais c'est pas l'homme qui a créé le monde, c'est Dieu. C'est Dieu qui a programmé la création. C'est Dieu qui a établi les lois de la création. C'est Dieu, pas l'homme, qui a établi la voie du salut. L'homme ne peut pas être sauvé par ses propres moyens. L'homme pense et dit, oh, il y a plusieurs chemins vers Dieu, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir des bonnes intentions, etc. Vous connaissez tous les arguments. C'est faux! L'homme est libre de choisir, mais seulement un choix le conduirait au ciel, parce que Jésus dit, je suis le chemin, pas un chemin. C'est Dieu qui a établi la voie du salut. Et c'est Dieu, pas l'homme, qui a, c'est fort ce que je vais dire, je ne sais pas si vous allez être d'accord. C'est Dieu qui a prédestiné l'histoire de notre planète. Et comment est-ce que nous savons ça? Parce que dès le début de ce livre, il y a le texte prophétique. Et le texte prophétique contient à peu près un tiers de ce livre. Et qu'est-ce que c'est ce texte prophétique? Eh bien, ça prédit l'histoire, n'est-ce pas? Le fait que nous soyons ici ce soir en train de parler des temps de la fin, ce ne serait pas possible sans le texte prophétique. N'est-ce pas? Mettons maintenant que notre Bible, au lieu d'avoir 66 livres, un tiers on les enlève, donc on n'en a que 44. Tout ce qui est prophétique, on enlève. Il nous restera pas mal de choses. Hein? Il nous resterait l'histoire. Donc, ce serait encore parfaitement possible d'être sauvé en croyant que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, etc. Ça, c'est l'histoire. Nous savons aussi, nous, que cette histoire a aussi un volet prophétique. Mais même si on écarte le volet prophétique, il nous reste pas mal de choses. Seulement, nous aurions une bonne connaissance de l'histoire, nous aurions un certain cadre de compréhension pour le présent, mais à partir de demain, resterait une grande point d'interrogation. Dans le monde, c'est comme ça. Les gens du monde, il y en a qui pensent qu'ils savent ce qui va se passer demain, n'est-ce pas? Nous avons encore lu cette semaine-ci que les experts se sont trompés concernant le réchauffement de la planète. Ça va beaucoup plus vite qu'ils ne disaient ou qu'ils ne pensaient. Et c'est terrible, etc., etc. Et alors, ils font des calculs, n'est-ce pas? Autant de degrés en plus, autant de ceci et cela. Donc, certains disent vers cette année, ce temps-là, il n'y aurait plus la vie sur la Terre, nous serions inondés, etc. Ils font des calculs. Mais le mois prochain, il y aurait des autres experts qui feront des autres calculs qui contrediront les premiers, etc., etc. Nous avons la Bible. Et nous avons le texte prophétique. Et même si ce texte prophétique est parfois difficile à interpréter, les grandes lignes sont claires. Et au plus que nous avançons dans le temps, au plus que ça devient compréhensible. Alors, qu'est-ce que fait ce texte prophétique? Ça place la Terre, notre planète, et donc nous autres, parce que nous vivons sur cette planète, dans ce cadre historique que Dieu avait déjà créé décidé, programmé, avant qu'il n'ait créé le monde. Dans ce cadre, il y a des choix possibles. Mais les grandes lignes, personne ne peut les changer. Nous pouvons peut-être influencer certains détails, mais la fin du monde va arriver. Et Jésus va revenir et le diable va être vaincu, n'est-ce pas? Les choses sont pré-programmées et ça ne dépend pas de la volonté propre de l'homme. Et l'homme ne peut pas les influencer. Quand je donne des études sur la prophétie, je demande souvent à la congrégation, qui croit que toute prophétie dans la parole de Dieu sera accomplie? Et toute la salle lève la main. Et moi je dis, c'est faux. Je ne crois pas. Il y a beaucoup de prophéties, à peu près 80%, qui sont conditionnelles. Et les prophéties conditionnelles ne seront accomplies que dans la mesure que les conditions sont accomplies. Je cite une prophétie conditionnelle typique de l'Ancien Testament. Écoutez au peuple, si vous obéissez aux lois du Seigneur, de l'Éternel, vous serez bénis. Si vous ne les obéissez pas, vous serez maudits. Vous connaissez ce genre de prophétie, il y en a beaucoup. Les deux ne peuvent pas s'accomplir, hein. Soit ils vont être bénis, soit ils vont être maudits, mais pas les deux. Parce que ce sont des prophéties conditionnelles. Mais quand il s'agit des prophéties essentielles, fondamentales, là nous partons du conditionnel et nous entrons dans l'inconditionnel. La Vierge enfantera. Les scientifiques peuvent dire pas possible. Mais c'est fait. Hein? Et dans le même cadre, le monde arrive à sa fin. Et les scientifiques peuvent dire ci et ça, mais Dieu l'a déjà préprogrammé. C'est comme ça. L'homme a son libre choix, mais seulement dans ce cadre, à l'intérieur de ce cadre. Il ne peut pas changer le programme et les décisions de Dieu. Dieu termine presque l'Ancien Testament en disant ceci, Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » C'est très simple. Romains verset 11, chapitre 11, verset 29, et avant que votre pasteur ne dise « Oui, mes frères, tu tires ce verset hors de son contexte, je le sais. Hein? Je confesse. » C'est tiré hors de son contexte, mais le principe derrière ce verset est toujours vrai. Et qu'est-ce que dit ce verset? Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. En d'autres mots, quand Dieu a pris une décision, cette décision reste. L'homme ne peut pas changer la décision de Dieu. Jacques écrit ceci, aussi intéressant. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pour certains, ça peut être effrayant, mais pour les enfants de Dieu, quelle assurance. Nous n'allons jamais courir le risque d'aller demain à Dieu dans notre prière et de dire, Père, tu as promis ceci ou cela, et que Dieu nous réponde, ah oui, mais ça c'était hier, aujourd'hui j'ai changé d'avis.
Et ça c'est notre assurance. Vous et moi, nous ne sommes pas comme ça. Vous ne changez jamais d'avis. Si, hein? Ce que nous disions hier, on disait c'est noir, c'est noir, c'est noir. Aujourd'hui, c'est blanc. On a changé d'avis. C'est notre droit. Mais notre père n'est pas comme ça. Ce qu'il a décidé, il y a des milliards d'années, il n'a pas changé de décision. L'Éternel dit à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? En d'autres mots, moi je tiens les ficelles. L'homme pense que, hein, il fait ce qu'il veut. Vous voyez l'image, comment ça se dit en français, avec les poupées, avec des ficelles. Des marionnettes, oui. On ne voit pas les ficelles. On voit les marionnettes qui dansent. Et on pense que les marionnettes agissent indépendamment. Mais c'est pas vrai. Il y a quelqu'un là-dessus ou derrière qui tient les ficelles, qui fait danser les marionnettes. N'est-ce pas? Et l'homme, dans son orgueil, pense qu'il a tout à dire, qu'il règne. Quelle folie. Dieu tient les ficelles. Et le plus grand orgueilleux de tout, le diable lui-même, pense qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Non, dit Apocalypse 17. Dieu qui le met dans le cœur. Ils n'en s'en rendent pas compte, mais c'est vrai quand même. Le roi Salomon dit, l'Éternel donne la sagesse. L'homme pense qu'il est sage, qu'il a étudié, qu'il a appris. Non, non, non. Dieu donne, l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Prophète Ésaïe, celui qui laboure, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Non, le laboureur va dire, non, 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 c'est par expérience. Nous avons expérimenté. Et par nos expériences, nous savons il faut faire comme ça, il vaut mieux pas faire comme ça. Oui. Mais qui a mis dans l'esprit de l'homme de faire ses expériences? Écoutons bien et comprenons bien. Cela ne veut point dire que Dieu nous a créés comme des robots. Nous ne sommes pas des robots. Dieu aurait pu préprogrammer Ève à dire non. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il aurait pu s'éviter un tas de problèmes. N'est-ce pas? Si Ève robotiquement disait non. Je pense dans ma propre vie. Ma propre vie pourrait être beaucoup plus simple si, quand le diable envoie une tentation, automatiquement je dis non. Sans réfléchir, sans aucun effort, parce que on m'a programmé à dire non. Dieu aurait pu éviter un tas de problèmes. Alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé des robots à la place des humains? Savez-vous pourquoi? Parce qu'un robot, vous ne pouvez pas avoir de la communion avec un robot. Un robot ne peut pas aimer. Et Dieu nous a créés parce qu'il veut une communion avec nous. Et vous êtes d'accord avec moi? Amour qui est forcé n'est pas amour. N'est-ce pas? L'amour doit être volontaire. Obéissance qui est forcée n'est pas de l'obéissance. Et Dieu n'a pas créé des robots. Bien que l'homme soit libre de vivre et d'agir seulement dans le cadre et le plan de Dieu, il peut choisir et décider de vivre contre ce cadre, sans l'accepter. Et Paul fait le contraste. Et encore, il faudrait lire tout le contexte pour avoir le poids complet. Aux Romains, il dit ceci. Vous avez autrefois désobéi à Dieu. Vous avez maintenant obtenu miséricorde. C'est ça la différence. Autrefois et maintenant. Aux Éphésiens, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. À titre, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs. Nous haïssons les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, et ceci est important. C'est même l'essentiel. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non, mais selon sa miséricorde. Et pourquoi? Parce que Dieu savait que de nous-mêmes nous y arriverions jamais. Il le savait. Dans le jardin d'Éden, Dieu fait un sacrifice d'animaux, verse du sang, afin que la nudité d'Adam et Ève soit couverte. Prophétique de ce qui allait se passer des milliers d'années plus tard, quand Jésus-Christ est mis à nu à la croix et dans son sang, afin que la nudité de notre péché soit couverte éternellement. Incroyable. Il y a des vérités profondes là-dedans qui ressurgissent même dans le texte et l'arrière-plan de l'Apocalypse. Et puis, Jean, apôtre de l'amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ça ne commence pas avec nous, hein? Ça commence avec lui. Mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'homme pense être maître des événements dans le monde. Et quand les choses ne vont pas selon ce qu'il veut, il dit, ah oui, mais ce sont des puissances naturelles. Non, ce ne sont pas des puissances naturelles. C'est Dieu qui tient les ficelles. L'homme ne se rend guère compte du fait que Dieu, qui a créé le monde, le tient toujours entre ses mains. Tous les experts ont tellement peur du réchauffement de la planète. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je préfère qu'il fasse chaud. Hein? Et nous, chrétiens, nous n'avons pas peur de toutes ces choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que Dieu tient le monde entre ses mains. Pourquoi avoir peur? Et oui, l'homme peut faire beaucoup de choses. J'ai lu dernièrement, saviez-vous que il y a assez de bombes atomiques dans le monde actuellement pour tuer chaque être humain 62 fois. Donc, si une bombe atomique tombe sur Boisvillers et vous restez en vie, n'ayez pas de chagrin, demain, ce sera votre tour. Et nous avons déjà vu dans le livre de l'Apocalypse, il semble très possible qu'il va y avoir des guerres nucléaires. Est-ce que ça détruira la création de Dieu? Pas du tout. Ce sera le précurseur à un nouveau monde, des nouveaux cieux. Et pourquoi ça? C'est le diable qui détruit. Mais Dieu est le créateur. Et ce monde, c'est lui qui l'a créé. Ne pensons jamais que le diable est puissant assez pour le détruire. Pas possible. Le diable, livre de Job l'illustre, mais il y a bien des autres illustrations, est une marionnette. Et Dieu tient les ficelles. Et Dieu dit dans le livre de Job, OK, diable, tu peux aller jusqu'à là, mais pas plus loin. Le diable ne s'en rend pas compte. Mais nous, les enfants de Dieu, ça nous enlève tout peur. Oui, il y a des choses terribles qui se passent. Bien sûr, on sympathise avec ces pauvres gens en Italie qui ont été frappés de nouveau par un tremblement de terre, mais demain ce sera autre part, et après-demain ce sera autre part. Le diable, il a une longue ficelle, si vous voulez. Mais il a une ficelle. L'homme pense être le maître des événements. Mais Dieu a le monde entre ses mains. Et le destin éternel de notre planète, c'est pas le diable qui le détermine. Mais c'est Dieu. Nous l'avons lu, Apocalypse 10, verset 7, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Pas avant. Parce que non seulement que Dieu a un programme, mais frères et sœurs, Dieu a aussi un calendrier. Et l'homme ne peut pas changer le programme, et il ne peut pas changer le calendrier. Quand les disciples disent à Jésus, quand est-ce que tu reviens? On voudrait savoir la date. 24 septembre 2016. Ça vous arrangerait? Moi, ça m'arrangerait beaucoup. Ma voiture est très sale, mais si Jésus revient demain, je vais pas la nettoyer. Mais quand les disciples demandent à Jésus, quand? Jésus dit, mais moi-même, je ne le sais pas. Mais le fait que Jésus ne le sait pas ne veut pas dire que la date n'est pas fixée dans le cœur de Dieu. Et cela ne se passera pas une seconde avant, ni une seconde après. Parce que Dieu n'a pas seulement le programme, il a aussi le calendrier. Et quand, aux yeux de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. Et ce mystère de Dieu, et nous terminerons là ce soir, ce mystère de Dieu comprend non seulement le monde, son programme, son calendrier, mais ce qui nous concerne beaucoup plus personnellement. Ce mystère de Dieu concerne aussi le plan du salut. Le plan de notre salut. Le salut éternel des enfants de Dieu. Et ce qui est si formidable, c'est que le diable et tous ses cohortes ne peuvent rien changer cela. Que le diable ne nous aime pas, je vous n'apprends rien de nouveau. C'est pas grave, nous ne l'aimons pas nous non plus. C'est pas grave. Mais de savoir que le diable, avec toute sa puissance, n'est pas capable de changer quoi que ce soit dans le plan et la volonté de Dieu de notre vie. Et parfois, pense, oui, mais alors, un chrétien qui est frappé d'un cancer et qui meurt d'un cancer. Le cancer ne vient pas de Dieu. Il vient du diable. Et Dieu le permet. Pourquoi est-ce que Dieu le permet? Là, c'est une grande question. Nous ne comprenons pas toujours. Est-ce que nous avons vraiment besoin de le comprendre? Est-ce que si on saurait la réponse, on aurait moins mal du cancer? Plus important, c'est de savoir que si Dieu l'a permis, nous allons nous accrocher à un autre promesse, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas, mon épouse est morte d'un cancer. Je ne vais pas entrer en détail, mais ce n'était pas possible. Ni pour elle, ni pour moi. J'aurais préféré qu'elle n'ait pas un cancer. J'aurais préféré qu'elle ne meure pas. Mais j'espère que vous n'allez pas me comprendre à travers. Le fait qu'elle ait eu ce cancer et qu'elle est morte, c'est formidable. Parce qu'aujourd'hui, elle est auprès du ciel, du Seigneur. Mon pasteur en Angleterre, je suis venu au Seigneur quand j'avais 15 ans, un homme déjà d'un certain âge, un homme de Dieu. Petit monsieur, peu corpulent, mais un berger de ses âmes. Si j'ai jamais vu un berger, c'était lui. C'était pas un formidable prédicateur. Il chantait, il avait un accordéon. Il savait à peine jouer, mais il faisait son mieux. Mais un berger de ses âmes. Au point où il passait tellement de temps à rendre visite à ses âmes, que dans l'église, c'était connu comment sa femme répondait au téléphone. On téléphonait chez lui et on demandait « Est-ce que je peux parler au pasteur ?» Et elle répondait « Je sais pas où il est. » Parce que il était en train de rendre visite aux âmes. Au moment donné, moi j'étais déjà longtemps en Belgique, et il meurt. Et mon fils, le plus jeune, il me dit, papa, on va aller aux funérailles. Il a conduit, on est allé en Angleterre aux funérailles. Et son gendre est aussi pasteur et c'est lui qui a conduit les funérailles, c'était très bien. Mais au moment donné, son épouse monte sur l'estrade, elle prend la parole. Et elle dit ceci, c'était les premières paroles. Je sais maintenant où il est. J'ai beaucoup réfléchi à cela. Bien sûr, toute l'église s'est effondrée en rire. Mais c'est ça. C'est ça. Le diable pense qu'il peut frapper les enfants de Dieu avec toutes sortes de maladies. Au fil des siècles, on les a brûlés, on les a torturés, etc. Terrible. Je ne vais pas diminuer les souffrances. Mais qui a gagné? Et qui gagne toujours? Moi, je sais où mon épouse est. Et par la grâce de Dieu, au moment qu'a choisi et programmé Dieu, j'espère la rencontrer. Ça, frères et sœurs, c'est l'Évangile. Et le diable fait des œufs supplémentaires à le critiquer, à le contredire, à essayer de le détruire. Il y a plus de chrétiens dans le monde aujourd'hui que jamais dans l'histoire. N'ayons pas peur de l'avenir. Amen. Je suis en train de prêcher maintenant, mais je suis venu pour les études bibliques. Merci de votre attention. Et Dieu voulant, à la prochaine fois. Amen, frère.